fait rire parce que je vous écoute parler et je me dis encore un peu en colère.
Oh, en colère, non. Revendication, même pas.
Vous menez la bataille.
On démontre qu'on peut être autre chose. Nous sommes témoins.
Vous êtes témoin de quoi?
D'une bonne nouvelle. Je reprends les vieux textes, j'ai été élevée là-dedans.
Vous voulez dire quoi?
Bah, qu'une jeunesse peut être autre chose qu'un... une vieillesse, pardon, vous voyez le lapsus. Une vieillesse peut être autre chose qu'un naufrage.
Et 4 ans et demi depuis 2h05.
C'est toute fraîche.
C'est l'occasion de vous retrouver un petit peu aussi ces réunions-là.
C'est très important pour ça aussi. Oui, alors on se retrouve régulièrement deux fois par mois, une fois pour un petit repas. Et d'autres fois en réunion de travail. Voilà. Et de temps en temps, on fait des colos. Oui, ça fait toujours rire. Oui, des colos, oui, parfaitement. Dans une vraie colonie de vacances.
Vous apprenez à vivre ensemble à l'occasion de ces colos?
Voilà, exactement. Surtout à se connaître, parce que, bon, comme nous sommes appelés à vivre ensemble, c'est très important.
Donc ici, c'est l'après-midi de travail. On va travailler sur notre projet qui est de fonder cette maison. Alors, bon, il n'y a pas encore de réponse précise, mais ça a l'air de vouloir un petit peu démarrer. Et enfin, bon, j'espère que ça sera très positif d'ici un mois et qu'il n'y aura plus qu'à construire, parce qu'on a déjà le terrain, on a déjà un certain nombre de subventions, etc. Donc, il nous en manque un peu, mais je pense que ça peut s'arranger. Et voilà.
Ça va bientôt faire 10 ans que le projet des Baba Yaga est né. Celle qui l'a pensé, celle qui l'a inventé, c'est Thérèse Claire. 10 ans de réflexion, de travail, de négociation, de forcing, de coup de gueule pour que la maison des Baba Yaga voie le jour. Et ce n'est pas fait. Il manque encore 900 000 euros pour que le chantier commence. La maison des Baba Yaga, c'est une utopie réaliste, dit Thérèse Claire. Ce sera une anti-maison de retraite. Une maison pour femmes âgées, autogérées, ouvertes sur le monde, intégrées dans un réseau d'échanges et fondées sur la solidarité. Les Baba Yaga veulent vieillir comme elles ont vécu, en femmes libres, engagées et indépendantes, à l'image de Thérèse Claire. Et n'essayez pas de les persuader que la vieillesse est une pathologie. Elles vous prouveront le contraire. Thérèse Claire revendique même une vieillesse politique et révolutionnaire qui changerait le regard sur les vieux. Thérèse rêve d'un mouvement du grand âge qui bousculerait la vieille Europe, pas moins. Et elle est comme ça, Thérèse, et elle a raison. Elle a de grandes ambitions et de belles fureurs encore devant elle. Thérèse a été de tous les combats. C'est une femme du XXe siècle, engagée pour la paix en Indochine, puis en Algérie, formée politiquement par les prêtres ouvriers. En mai 68, elle était dans la rue. Quelques années plus tard, elle criait « avortement libre et gratuit ». Thérèse est une grande dame du féminisme et aujourd'hui, elle se bat toujours du côté des femmes, mais dans l'art de bien vieillir. Son dernier combat, c'est les Baba Yaga. Et je ne suis pas du tout sûre, d'ailleurs, que ce soit le dernier. Après tout, Thérèse a seulement 80 ans. Quel bel âge, dit-elle malicieusement.
maman qui a été 5 ans grabataire avec une insuffisance respiratoire sévère. Pauvre chérie, je l'entendais haleter, c'est horrible, l'insuffisance respiratoire. Et ça a été terrible. J'ai eu 5 ans, c'est que moi, c'était la double journée.
Elle était chez vous ?
Non, elle n'était pas chez moi, elle était chez elle. Mais il fallait que je coure les médecins, les visites, un peu gérer sa vie et puis être là quand même parce que elle sortait plus.
Il n'y avait plus que vous.
Mais enfin, c'était une vie à s'occuper, donc ça a été très très dur. Et je me suis dit, je n'offrirai pas ça à mes enfants. Donc j'ai rêvé d'autres choses. Et puis vous savez, le rêve, l'invention, ça vous vient d'un coup. On l'a maturé probablement pendant des mois, des années, et je me suis assise à ma table, je me revois encore, et j'ai écrit tout le texte.
Des Baba Yaga.
Des Baba Yaga, et un petit texte qui dure encore, on ne l'a même pas révisé. Il est encore bon. Être autonome, être fier de sa vie, être maître de sa vie, maîtresse de sa vie, c'est une idée qui ne m'a jamais quittée. Donc je me suis dit, il faut trouver une solution collective. Mais en même temps, en gardant...
Un lieu à soi. C'est-à-dire des parties collectives.
Une chambre à soi, comme dirait Virginia. Notre projet, notre volonté, c'est de changer l'image des vieux. Alors que tout le monde devient vieux. Donc la tâche des Baba Yaga, la tâche militante des Baba Yaga, c'est de démontrer qu'on peut vieillir autrement, qu'on dépensera moins, qu'on restera intelligente, qu'on ne deviendra pas gâteuse, parce que nous allons continuer à militer. On va peut-être moins dans les banderoles et moins dans les manifs, encore que avec une canne on peut arriver à faire beaucoup de choses, avec deux encore mieux. Mais on va, par exemple, il y a d'immenses besoins citoyens sur Montreuil, avec les petits enfants qui sont en déficit scolaire.
Donc de l'aide scolaire.
De l'aide scolaire, on va les aider. On va continuer à apprendre à lire aux femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas parler français. Donc on va continuer ce genre de militance.
Je veux vieillir en me terrant, loin des mamies de confiture, vieillir avec des chiens errants, dans quelque immonde coin de masure. Très loin des miroirs imbéciles, écouter craquer mes vieux os et ma carcasse de fossiles, danser de pauvres vieux tangos. Rouler ma coupe de toupies, mes rotules et mes quiboles, pour chacasser avec les pies sur la place du Capitole. Mais quelquefois, m'en bijouter, sonner le vieux métal pour un Goya discrédité qui voudra peindre son quétal. Je veux vieillir en glapissant quelques chansons patriotiques, debout martial sur les bancs avec des pigeons pour public. Avoir pour main de vieilles choses crochetées d'ongles terrifiants pour éventrer les ballons roses et faire pleurer les petits enfants. La tête et m'oublier, raconter des je ne sais trop quoi, des histoires de rats éborgnés en regardant pousser mes doigts. Je veux vieillir en séduisant des maîtres nageurs immatures, blottir mon corps tout grelottant au fin fond d'un lit d'aventure. Et puis mon père lificoter dans une marée de chupons, glousser des rires effrités, l'œil en dérive, le verbe abscon, baisser des lèvres achetées pour en faire croire. En chevrotant d'obscènes déshabillés, moi, vieillir en bon, tout frémissant, et qui vous glaceront des froids. Vieillir, je veux bien, mais en fuir. quotidien imberbe, impudent, avant que de n'exister plus. Parce que quand l'heure aura sonné de vous habiller de grand deuil, dites-vous bien, mais tant aimé, que je ne serai pas fière dans mon cercueil.
Thérèse Claire, c'est celle qui a imaginé et écrit le projet des Baba Yaga. C'est sorti d'un jet comme une évidence. La maison des Baba Yaga, l'art de bien vieillir, une utopie réaliste. Ce sont les mots de Thérèse Claire. Ou alors, c'est dans la vie collective que nous nous aiderons à bien vieillir. Il est gros à parier que ce style de vie maintiendra les Baba Yaga dans une verte vieillesse. Thérèse rêve d'une maison de Baba Yaga exemplaire. Et quand le corps viendra à manquer, les Baba Yaga prépareront à manger à celles qui ne peuvent plus le faire. Elles s'aideront à se coiffer, à s'habiller. Et Thérèse est sûre qu'ensemble, ce sera mieux, ce sera plus gai. Et ne lui dites pas que c'est un projet entre copines. Ce qu'elle veut, c'est que ça fonctionne pour d'autres. Alors elle se balade un peu partout en France, en Europe, pour parler des Baba Yaga, mais pas seulement. Thérèse parle aussi de la vieillesse, mais pas de la vieillesse douloureuse. Elle parle de cet âge délicieux où il n'y a plus rien à prouver à personne. Elle parle de sexualité, de jouissance des vieux. Elle s'amuse à faire l'éloge de la lenteur. Elle se fout de la morale, quitte à choquer.
La sexualité des vieux, c'est un sujet tabou, personne n'en parle et pourtant cela existe. Cela existe avec des bonheurs divers. Il est évident que les femmes sont tellement dominantes en nombre. La démographie est là aussi pour nous dire que à 75 ans, il y a 5 fois plus de femmes et à 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes. Donc j'entends toujours une voix innocente me dire du fond de la salle, « Oh madame, mais comment on fait, il n'y a plus d'hommes ?» Alors je me mets à rire en disant, allez, l'imagination au pouvoir. Il y a des chemins buissonniers où on cueille des fruits merveilleux. Alors il y a un silence en principe. Il y en a la moitié qui sont choquées à mort. Et puis il y en a quelques-unes qui se mettent à sourire, leur vieux rêve. Et puis l'autre fois, en sortant du film, il y a un joyeux monsieur, pas jeune, avec une petite barbe blanche, et qui m'a dit, merci madame de vos bons conseils, je vais aller les mettre en pratique. Mais il était si joyeux, si rigolard, il était pas du tout libidineux, pas du tout de ce genre, que j'ai ri avec lui, j'ai trouvé que nous avions un âge délicieux, lui et moi. Et dans le film, il y a un de mes anciens et charmants et délicieux copains qui dit, avec sa bouche et ses mains, on peut faire encore des choses délicieuses, comme il a raison.
Et dans les Baba Yaga, justement, dans le projet de cette maison, vous laissez une part à la sexualité pour chacune.
Bah, c'est là qu'on est libre, chacune a son appartement, enfin son studio, c'est pas un appartement grandiose. On aura tout entre 29 et 35 mètres carrés, avec les douches, les toilettes et une petite cuisine, donc qui nous empêche de recevoir. Vieillesse est un très bel âge.
Alors expliquez-moi ça.
Parce qu'on a vécu très très longtemps, on a fait plein de choses. Moi j'ai toujours été une femme engagée depuis la guerre d'Indochine. Je défends quelques causes, j'ai refait le monde, j'ai essayé. Je n'ai pas refait le monde. Mais l'expérience me démontre qu'on fait avancer un peu les choses, avancer la liberté.
Vous me faites rire parce que je vous écoute parler et je me dis... Encore un peu en colère.
Oh, en colère, non. Revendication, même pas.
Vous menez la bataille.
On démontre qu'on peut être autre chose. Nous sommes témoins.
Vous êtes témoin de quoi?
D'une bonne nouvelle. Je reprends les vieux textes. J'ai été élevée là-dedans.
Vous voulez dire quoi?
Bah, qu'une jeunesse peut être autre chose qu'un... Une vieillesse, pardon, vous voyez le lapsus. Une vieillesse peut être autre chose qu'un naufrage.
Tiens.
Bon, on va peut-être commencer, mes petites dames. Hein, parce que je vous ai fait attendre et je crois qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Alors, écoutez, il y avait plusieurs choses qu'on voulait voir, mais surtout, nous avons reçu les mails suivants. Mesdames, comme vous le savez, l'OPHM ainsi que la ville de Montreuil mettent tout en œuvre afin que le projet rue de la Convention sorte enfin de terre. Afin de relever cet audacieux challenge, nous devons adresser notre demande de financement auprès de la DDE au plus tard le 14 novembre 2008. Dans la mise au point du projet définitif, nous avons tenu compte de nos échanges du 3 octobre dernier. En effet, lors de cette réunion, vous nous avez fait part de votre réticence au fait d'accueillir des personnes âgées ne faisant pas partie de l'association et risquant cependant d'avoir besoin d'aide. Aussi, nous avons décidé d'intégrer 4 logements banalisés que nous affecterons à des jeunes de moins de 25 ans, ce qui nous semble correspondre à vos attentes. Cette alternative contribue également à rendre l'opération acceptable et réaliste pour nos partenaires financiers. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui vous en semble?
Faire un tour de table.
Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, on est sur le point d'aboutir.
Mm-hmm. Bon, enfin, en ce qui me concerne, moi, peu importe ce qui se passe, la seule chose à faire, c'est de foncer et d'accepter les conditions. Et voilà, un point c'est tout. Je vois pas pourquoi on va encore aller réclamer ceci, cela. Ça fait 8 ans que vous attendez. Je crois qu'il est temps que ça arrive. Alors, si ça semble quand même un des derniers obstacles, si j'ai bien compris.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. Je pense que si nous devons attendre d'avoir des autorisations et des financements pour exactement ce que nous voulons, nous serons mortes avant. C'est mon opinion. Donc, je pense qu'il faut accepter. On verra bien ce que l'avenir donnera. Et d'autre part, si ça nous fait des ennuis, eh ben, nous supporterons les ennuis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime mieux supporter des ennuis que l'échec total. Voilà mon opinion.
fait presque 10 ans que les Baba Yaga se battent pour que leur maison existe et elles ne sont pas prêtes de baisser les bras. De toute façon, elles n'iront pas en maison de retraite. Alors en attendant, elles se retrouvent une fois par mois pour travailler. Il y a toujours de nouvelles décisions à prendre, il y a des concessions à faire pour obtenir les derniers financements. Mais sur le fond, les Baba Yaga restent fidèles au projet initial, vieillir comme elles ont vécu, en femmes libres, engagées et indépendantes. Et c'est comme ça aussi que Thérèse Claire a vécu. Engagée dans la lutte des femmes, elle a été l'un des piliers du MLAC, souvenez-vous, le mouvement de libération de l'avortement et la contraception. Elle était de toutes les manifestations exigeant le droit à avorter librement et gratuitement.
Je me souviens qu'il y avait une espèce de d'euphorie, quelque chose d'unique, parce que on était en collectif pour faire avancer la loi, pour faire la révolution, c'est pas autre chose, vouloir d'autres lois.
Vous étiez portée.
J'étais portée.
Par l'époque.
Absolument.
Et par un désir et par une croyance.
Une foi.
D'un avenir meilleur.
Absolument.
Et d'un monde meilleur.
Ben voilà. Et j'ai encore cette foi-là. Alors, si vous voulez, les années ont passé.
Vous avez encore la foi d'un monde meilleur ?
Ah oui, je crois. Je me souviens encore de cette manif, c'était l'époque où on portait encore des robes longues, des cheveux longs, un peu, l'époque un peu hippie, j'avais quand même 40 ans, j'étais pas toute jeune, mais cette manif, ça a été la plus belle de toute ma vie, avec celle du 13 mai 68. Il y a eu d'abord le 13 mai 68 qui a été cette marée humaine qui s'est écoulée de 14h jusqu'à 22h le soir. Ça a été la plus longue manif et on a senti la fraternité, vraiment, on a senti la solidarité. Et puis ce quelque chose de nouveau qui nous soulevait, c'était un espèce d'avènement de société. On rêvait, on parlait de nos vies, on parlait de nos espérances. Et c'était si beau et si magnifique que je ne peux pas en parler sans sentir les larmes qui me montent aux yeux, parce que tout était possible.
Et donc ça a été de vos combats.
Ça a été de mes combats. À l'époque, j'étais encore dans l'église, mais curieusement, j'ai appris Marx à l'église.
Comment c'était... ça, dans l'église?
Eh ben, parce que dans l'église catholique, il y avait tout ce christianisme social qui a quand même eu une grande époque.
Mais quand je vous écoute parler, je me dis que vous êtes une femme du XXe siècle, absolument du XXe siècle.
Complètement.
Hein, c'est ça.
Nous avons connu
les prêtres ouvriers,
absolument,
l'Indochine, les libérations des femmes,
l'Algérie,
j'imagine,
absolument.
68.
Absolument.
Et
puis
là,
après le mouvement des femmes, qui pour moi a été l'alpha, pas encore l'oméga, je vais mourir bientôt, mais j'y crois encore et je défendrai encore les femmes parce que je vois de telles violences passer à la maison des femmes que je me dis qu'il faut mettre les bouchées doubles et que surtout les jeunes femmes continuent. Moi, je suis vieille, je vais partir, mais vous continuez, parce qu'à nouveau, les violences, vous allez être noyées dedans. Il faut vous défendre, il faut utiliser ce qu'on vous a eu, les droits que vous avez. Il faut que vous fassiez vivre les droits qu'on a eu tellement de mal à obtenir.
30 femmes dans un salon qui tournent et parlent à leur tour, sans phrase, sans discours. Et dans le couloir défilent les tabliers blancs des hommes de science et de morale. Moi, dit la femme usée, on ne m'a jamais dit comment ça peut se faire ou ne pas se faire. En voilà déjà 8 sorties de moi et je suis vieille hélas. Et de nouveau dans mon ventre alourdit cette chose. Mais je ne veux plus d'un autre enfant, je ne veux plus, je ne peux plus. Moi, dit le grand patron, je ne reçois pas d'ordre. Et ma conscience, qu'en faites-vous? Je n'ai jamais purgé que des juives ou des tziganes. Elles sont parfois charmantes d'ailleurs. Allez au diable, cette femme, vous ne savez que geindre. Écoutez plutôt là, ce cœur qui vous sauve. 30 femmes dans un salon qui tournent et parlent à leur tour, sans phrase, sans discours. Et dans le couloir défilent les tabliers blancs des hommes de science et de morale.
Moi, je n'ai jamais fait l'amour jeune femme sans avoir l'angoisse de me dire « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ?» Donc, le plaisir, vous voyez, ça a été plus restreint. Une fois que j'ai eu la contraception, j'ai su ce que c'était la plénitude de l'orgasme. Mais avant, on était toujours un peu retenu en se disant « Mon Dieu !» Et on avait... Moi, je n'ai eu que 4 enfants, mais j'ai plein d'amis qui avaient 7, 8 enfants, et dont plus les avortements, parce que les avortements, c'était pas 2 ou 3 avortements. C'était 12, 15, 18 avortements. C'était la cause de mortalité la plus importante entre 18 et 50 ans. Les femmes mouraient parce que, comme c'était pas fait médicalement, la faiseuse d'ange, c'était l'aiguille à tricoter qui était plus ou moins propre, donc on mourait de septicémie, on mourait d'un utérus, elles avaient été trop loin, qui avait été percé, dans les souffrances atroces, bien sûr.
Ce qui n'est pas votre cas, vous n'étiez pas une faiseuse d'ange.
Ah, pas du tout. Ah,
oui, mais c'est ça qu'il faut dire.
Oui.
Non. Parce que vous avez été formée.
Je défendais une cause qui était la libéralisation et la médicalisation de l'avortement. À ce titre, les jeunes médecins, beaucoup de jeunes, oui, parce que les vieux, ils étaient de la vieille école, les femmes, ça devait avoir des enfants. Les jeunes médecins nous ont appris à avorter avec la méthode Carman. J'habite un petit immeuble à Montreuil, et dans ce temps-là, il y avait 2 jeunes hommes qui habitaient à des étages différents. Et ils s'étaient débrouillés pour acheter un moteur de frigidaire aux puces, je me souviens encore, pour 85 anciens francs, c'était pas cher, et ils me l'avaient trafiqué pour m'en faire un aspirateur. Alors, et ils avaient même réussi à mettre un manomètre dessus.
Et un aspirateur, parce que alors, comment vous avortez?
Alors, c'est pas très difficile, un Carman, vous savez.
Alors,
un Carman, dans le temps, on fait toujours, d'ailleurs, on faisait à la curette, on faisait un curetage. Ouais. Alors, les médecins les plus futés, comme ils voulaient punir les femmes, ils les faisaient sans anesthésie. Ouais. C'était beaucoup plus drôle d'entendre hurler les femmes. Elle s'en souviendra, la salope. Voilà ce qu'on entendait. Mais après, il y a André Carman qui a inventé une autre méthode, c'est-à-dire qu'il fallait dilater le col de l'utérus et après on enfilait une sonde qui était reliée à un aspirateur.
On aspire par aspiration.
Par aspiration. Alors on enfilait le spéculum avec la lampe électrique, on avait même pas de casque à lampe électrique, c'était une copine qui tenait la lampe, et on commençait à repérer le col de l'utérus et à commencer à dilater ce col. Et quand le col était dilaté à environ un petit doigt, là on aspirait, on mettait une sonde finale et on aspirait. Alors, ce qu'il arrivait, c'est que on était quand même un peu des apprentis. Il ne nous est rien arrivé. On n'a pas eu de décès, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais. Parce que j'ai su après qu'il pouvait nous arriver des choses horribles. Ouais. Donc, on avait quand même la trouille au ventre. On avait la trouille des flics, parce
qu'il
fallait se planquer. Encore que, à mon avis, les renseignements généraux devaient tout savoir sur nous. Faut dire qu'on a vécu cette période une période très très heureuse parce que on délivrait les femmes d'un souci, mais en même temps dans la maison c'était instauré dans tout le petit immeuble, c'était instauré pareil une solidarité. Les garçons nous aidaient, toujours les rôles.
Tout le monde le savait dans l'immeuble
que vous faisiez des avortements. Ah oui, alors on n'était que 5 locataires, j'ai un tout petit immeuble. Il y avait que la divorcée du rez-de-chaussée qui ne s'en remettait pas d'être divorcée. Puis un jour, elle voyait du monde passer, elle s'étonnait. Je lui ai dit, écoute Louisette, je vais t'expliquer. Voilà ce que nous faisons. Et elle m'a dit, oh, tu sais, moi j'ai avorté 2 fois. Alors elle m'a dit, je ne vais pas vous aider, mais je vais vous faire des gâteaux pour après. Mmh. Et il est évident qu'après, on était extrêmement tendre avec la jeune femme parce que c'est pas drôle. Et puis, il y avait derrière souvent des histoires d'amour assez sordides. Mmh. Les mecs, on les voyait pas. Donc, on terminait par une petite fête. Je suis née à 40 ans, moi. Et c'est le mouvement des femmes qui m'a fait naître.
Et vous étiez une femme mariée avec enfant.
Mariée avec enfant. Mon mari avait une petite entreprise.
Vous ne travailliez pas.
Je ne travaillais pas. Il n'y avait pas de souci d'argent. J'avais un grand appartement de 120 mètres carrés avec du parquet qu'on passait encore à la paille de fer et à l'encaustique avec les gamins. Vous voyez comme c'était pratique et reposant. Mais on était toutes comme ça.
Mais quand même, vous aviez ces prêtres ouvriers qui vous disaient Marx. Ça, c'était votre ouverture.
Alors ça, c'était mon ouverture. C'était pas des gens d'église, c'était des gens d'évangile. Ouais. C'était des gens qui étaient extrêmement honnêtes, qui crachaient effectivement sur tout le religieux, sur toute la hiérarchie. D'ailleurs, après, ils sont partis, ils se sont mariés pour la plupart. Mais c'était des gens qui m'ont appris que cet évangile-là, c'était conforme, on était déjà des partageux. Et Jésus, quand on revoit l'historique de Jésus, c'était déjà les partageux. Comme ceux de la commune, c'était les partageux. Et que ceux-là, on pouvait les rejoindre. Marx et Jésus, moi, ça me choque pas du tout.
Marx, Jésus, l'avortement, mouvement de libération de la
vous
femme.
Vous ne trouverez rien dans l'évangile de sexuel. Rien n'est sexuel dans l'évangile. C'est à chaque fois qu'on m'ennuie, je suis poli.
Je fais exprès, je ne m'engueulez pas.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, lignant partout les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, jette au point l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la flèche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. La belle vie que ça sera, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas.
À 40 ans, vous découvrez quoi? Vous prenez des amants?
À 40 ans, j'ose. Il y a un merveilleux verbe que les femmes devraient employer, oser. Et oser, c'est devenir subversif. Oser ce qu'on vous a défendu.
Vous avez osé quoi, par exemple?
J'ai osé, par exemple, divorcer. C'était énorme, divorcer dans une famille catho. Même là, si vous voulez, même mes prêtres ouvriers, pour les femmes, ils étaient restés extrêmement classiques. Les femmes, ça se mariait, vierge autant que possible. Ils n'insistaient pas trop, mais on avait des enfants, fallait avoir des enfants, etc., etc.
Et vous divorcez vos enfants en quel âge?
Alors, mes enfants étaient quand même élevés. La dernière avait 8 ans et l'aînée avait 16 ans. Donc, tout ce monde-là allait tout seul à l'école, savait se débrouiller, les grands aidaient un peu les petits. Donc, ça m'a rendu les mains libres. Mais je n'avais pas de formation. J'avais été une élève nulle à l'école, mais nulle d'une nullité. Donc, je n'ai pas fait d'études du tout. Et puis, mais j'ai lu, moi, j'ai lu la bonne littérature française, j'avais 30 ans, en promenant mes gamins au Père Lachaise. J'ai lu Stendhal, j'ai lu Balzac, j'ai lu la grande littérature française.
Avec la poussette, c'est ça? Vous lui avez tiré le bouquin sur la poussette?
Absolument. Ah ben non, on s'arrêtait, je m'asseyais sur une tombe. les gardiens me connaissaient, donc ils me fichaient la paix. Et puis mes gamins jouaient.
Ils risquaient rien dans le Père Lachaise.
Ah, ils risquaient rien.
J'ai jamais pensé.
Il y avait quelques gens qui ouvraient un peu leurs imperméables de temps en temps. Bon, enfin, ça, c'était. Nous lirons un détail.
Donc vous divorcez, apprenez un métier.
Beaucoup plus tard. La profession est venue d'abord. Alors j'ai commencé démonstratrice au printemps, en période de Noël. Et là j'ai vu que je savais bien vendre, que j'avais de la parole.
Oh, donc, c'est ça. J'allais le dire.
J'avais de la parole, donc j'ai su vendre. Alors c'était déjà formidable parce que c'est tout ce que je savais faire ou à peu près.
Donc vous divorcez.
J'ai osé divorcer fin 68. J'ai posé la question et comme il avait déjà lui une autre femme depuis au moins 2 ans, il a pas dit non. Il m'a injurié d'abord et après il a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai divorcé. Alors après, je me revois.
Avec les 4 mômes, j'imagine, parce que pas de garde partagée.
Avec mes 4 mômes.
Un salaire pas mirobolant.
Oh, un salaire de misère, vous voulez dire. Une pension alimentaire de misère, parce que je gardais l'appartement, donc il estimait que c'était. Effectivement, il avait raison. Nous avons vécu. Il y a quelques fois où, la veille au soir, je ne savais pas comment nous allions manger le lendemain. Et au miracle. Moi, je crois au miracle. Parce que le lendemain, il me tombait un arriéré de l'allocation familiale où j'avais un patron qui m'invitait parce qu'il voulait me faire travailler. Donc après, je suis devenue représentante de commerce.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc je ne vous dis pas que je gagnais une fortune, mais je gagnais de quoi vivre. Et en même temps, ça me laissait du temps. J'étais libre de mon temps du moment que je fasse mon chiffre. Et donc, ça me laissait du temps pour militer.
Quelle révolution, hein.
Quelle révolution.
J'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal saoul, ma moto panthère tremble entre mes genoux. Et toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures. Bottée de cuir noir, je suis la femme feu, la femme jaguar au cou cérémonieux. Mes doigts sont autant de seringues mobiles, mes bras de serpents, de longs serpents fragiles. Mes reins sont en fer et mon ventre en satin, mes cuisses dans leur joue comme des dauphins. Et toi, Blanche-Neige, jeune rondière, avec ta bouche vermeille. Toi, Blanche-Neige, jolie mamère, va faire tes tartes aux groseilles. Quelquefois, les minets pâles et chauds, qui fonde sur moi comme l'aigle sur l'agneau. J'aime les brutaux au large cou cuivré qui gardent un chapeau pour me déboussoler. Quand c'est terminé, ils gisent comme des vieux, un peu disloqués, des lacs bleus sous les yeux. Toi, Blanche-Neige, blanche mignonne, sensuelle comme une momie. Toi, Blanche-Neige, tendre et babonne, va donc moucher ton mari.
Non, je voulais vous soulever autre chose. Nous avons eu cette année beaucoup de personnes qui ont voulu venir, etc., etc. Connaître les bavardages, etc. Beaucoup plus que les autres années. Il y a une espèce d'accélération. Et on se demandait comment recevoir cela. Alors, il faudrait quand même qu'il y en ait une ou deux qui soient attentifs plus précisément aux nouvelles personnes qui arrivent et à les accueillir, à parler un peu avec elles, etc.
Bon, je trouve que c'est très pertinent de désigner à l'avance deux personnes pour l'accueil. Elles sont au moins là. Hein?
Oui. Bon, alors, est-ce qu'il y en a deux qui peuvent, le 11 novembre, faire l'accueil?
Je ne serai pas là le 11 novembre. J'aurais bien pris.
Non, toi, t'es de cuisine. Je veux bien. Tu veux bien ma gueule?
Claire, tu veux?
Pardon,
je fais la cuisine.
Il y a un aspect, comment je dirais, militant, qui peut être décourageant pour des gens qui sont pas là-dedans a priori 100% au démarrage, hein. Alors maintenant ça peut pas convenir à tout le monde et bien entendu, mais est-ce qu'il y a pas un petit aspect dire nous c'est les, déjà le, bon. Alors le nom Baba Yaga est absolument extraordinaire, mais quand il est expliqué, bon, d'accord. Bon, non, mais.
Oh, c'est un côté un peu rude.
Pour ceux qui sont restés, ils l'ont pas ressenti comme ça, moi non plus. Je veux dire, Claude, mais je me suis.
Claude,
il y a franchir quelque chose.
Claude, il y a effectivement ce petit aspect qui va au-delà d'une association, si je puis dire.
Hein, oui, c'est
moi, je dis souvent autour de moi, je fais partie d'une association de vieilles femmes, etc. Il y a effectivement chez Baba Yaga quelque chose qui va légèrement au-delà. Mais après tout, c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Nous sommes quelque chose qui va légèrement au-delà de l'association. Simplement, on se réunit pour prendre le thé. Non, nous ne sommes pas simplement, on se réunit pour manger ensemble ou prendre le thé ensemble. Nous sommes un peu au-delà. Eh bien, que nous donnions cette impression, c'est normal. Nous sommes une association pour vivre ensemble.
Baba Yaga, sorcière croqueuse d'enfants, Thérèse Claire, peut être fière d'avoir imaginé cette association et fière parce que ses 10 dernières années à défendre ses idées n'ont pas été vaines. La maison des Baba Yaga est en train de faire des petits, des femmes et des hommes aussi sont en train de réfléchir à comment vieillir autrement. L'idée de vivre ensemble fait son chemin, des expériences proches des Baba Yaga émergent un peu partout en France. Les Baba Yaga reçoivent de plus en plus de candidatures de femmes qui souhaitent rentrer dans l'association et devenir elles aussi des sorcières croqueuses d'enfants. Thérèse Claire ne s'est pas trompée, c'est peut-être le début d'un mouvement du grand âge. Le grand âge, Thérèse, elle fait avec.
Faut faire avec. Vous avez employé la locution qu'il faut. Faut faire avec. Bah oui, j'ai les seins qui flanchent. Bah oui, j'ai du ventre. Bah oui. Eh ben, on fait avec.
C'est-à-dire, vous essayez quand même de faire dire la vieillesse n'est pas un naufrage, même si par moment vous voir vieillir, c'est quand même difficile. C'est ça qu'il faut
c'est
qu'on
entende.
C'est
difficile, mais je veux que. Et par, les chercheurs, par exemple, veulent travailler avec nous. Parce qu'on est quand même un groupe de bonnes femmes qui sont quand même, faut bien le dire, un peu étranges, j'allais dire exceptionnelles parce que je suis modeste avec ça. Mais il est évident que notre vie de lutter, c'est exister, vous savez. Et j'ajouterai un autre verbe, Oser, c'est exister, parce qu'on est dans la subversion, mais inventer et créer, c'est exister.
Et c'est ça qui va vous maintenir, voilà. Les Baba Yaga.
Inventer sa vie, inventer tous les jours des choses, inventer une certaine manière de vivre, faire avec un corps qui se dégrade. Peut-être se dégrader moins vite. Ça aussi, il va falloir le calculer. On voudra travailler avec un ou une gérontologue. Mais tous ces...
Oui, pour travailler votre mémoire.
Absolument. Le souffle, l'équilibre, que tout ça, ça fout le camp un peu. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des spécialistes qui eux aussi se disent, la matière vieillesse sur laquelle nous travaillons, c'est une vieillesse, hélas, pas révolue, et je pense que ma génération, elle est foutue, parce que ce sont des femmes et des femmes qui n'ont été employées qu'à faire et élever les enfants. Il n'y a eu aucun projet jeune, donc il n'y a pas de projet vieux.
Et nous, c'est nous qui en profiterons.
Absolument.
En fait. Comme on a bien profité de la pilule.
Absolument. Vous avez eu donc un nombre d'enfants restreint, tant mieux.
On a eu plein d'amants.
Vous avez eu plein d'amants, tant mieux.
On a pu choisir un seul à un moment, mais avant on s'est entraîné.
Tout à fait. Comme ça, vous êtes mûr pour le plaisir et vous êtes doué pour le plaisir.
Au moins, on peut l'espérer.
Voilà. Et les hommes devraient être enchantés de ce genre de disposition. Je les y exhorte d'ailleurs en disant « Bénissez vos prédécesseurs parce qu'au moins, vous avez une femme à point. » Au point.
Dix ans de bataille. Vous n'avez pas lâché.
J'ai pas lâché, je suis pugnace. On a posé une première pierre fictive, parce que la première pierre est posée quand on a les crédits. En riant, j'avais dit la première pierre, ça va être des pavés dans la gueule. Et le matin, vous savez comment c'est fait, il y a un petit muret en parpaing, puis au milieu, il y a un creux pour mettre la première pierre. Et j'ai trouvé des pavés. Alors j'ai fait mon discours d'accueil, il y avait tous les journalistes, il y avait tout le monde avec mon pavé dans la main, en disant je tiens le symbole de la révolution en France.
Ça veut dire que votre première pierre fictive, c'est un pavé?
C'était un pavé dans la gueule.
Donc là, on va voir le chantier.
Alors là, ce qui est important, c'est que nous avons fait comment ça s'appelle ? Voilà, l'inauguration, comme ça, hein. Et on est venu en cortège poser chacune notre première pierre. Là, c'est là que les premières pierres ont été posées. Et on a mis à l'intérieur, on a mis un rouleau, hein, tu te rappelles, où il y avait la charte des Baba Yaga, enfin, qui est là-dedans. Voilà. On se passait la truelle, on mettait du mortier, hein, pour tenir, et puis on posait la première pierre, chacune.
Il y avait des pavés, ou je rêve? Il me semble qu'il y avait des pavés.
Oui, c'est possible. On était dans un état un peu second. Quand on fait ce genre de choses, on n'est pas très... on ne peut plus. Mais c'était très sympathique.
Bien-être personnel vient de la vie collective que j'aime et surtout maintenant à travers mes Baba Yaga. J'ai toujours vécu dans le collectif. Pour moi, c'est indispensable. À ce point que j'ai donné mon corps à la science et que une fois que les carabins auront travaillé sur mon corps, les restes sont enterrés à Thiers en fosse commune. Je serai enterré en fosse commune parce que je vivrai encore au-delà de la mort, même si rien n'existe après, avec les autres. C'est pas du tout dans un esprit de mission, j'ai aucun sens de la mission, chacun sa merde. Mais moi je vis en plénitude comme ça, alors pourquoi le refuser?
13 au Grande Baba Yaga et n'oubliez pas de nous inviter quand vous inaugurerez la maison des Baba Yaga. Parce qu'on trinquera à votre bel âge, à votre santé, à toutes et à l'avant-garde éclairée. Merci Thérèse, merci à toutes les Baba Yaga, sacrées bonnes femmes et surtout continuez le combat. Merci aussi à Odémilie Judaïque et son petit micro. Merci à Jean-Marc Larocca qui suit les Baba Yaga depuis 3 ans et qui espère en faire un documentaire. Bonne chance. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, sur le site internet de l'émission, vous trouverez les coordonnées des Baba Yaga. Vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et nous écrire encore. La semaine dernière, vous nous avez gâtés. On a croulé sous les messages. On a adoré. Merci. À vendredi prochain et passez un bon week-end.